I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Cyril Morin.
Salut, c'est Glenn Cellier.
Bienvenue dans Mercredi Mercato, le podcast 100% transfert made in Eurosport. On espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, que vous vous préparez ardemment au réveillon. Glenn, comment s'est passé ton Noël? Tout a été bon, tout a été sympa?
Alors bon, oui, tout a été très sympa. Je croise les doigts, on a été relativement évité par le Covid. J'espère que c'est le cas pour plus de gens possible.
Alors, il ne sera pas question du Covid dans ce mercredi mercato, mais bel et bien de la folie qui s'empare de Madrid ces dernières heures avec la une de Marca ce mercredi. Haaland, Mbappé, le Real estiment qu'il est possible de signer les deux. Ce sera notre premier sujet, Glenn. Le Real fait-il une erreur en espérant pouvoir attirer les deux? Vous verrez que c'est un petit peu plus compliqué que tout ça. Le deuxième sujet, Glenn, on ira en Catalogne.
Oui, on reste en Espagne pour profiter, vous n'allez plus en profiter de l'excellent accent espagnol de Cyril, qui est bilingue en espagnol. Il va nous en faire profiter. Et cette fois-ci, on parlera de Ferran Torres et du Barça en se posant une question assez simple. 55 millions sur Torres, est-ce vraiment malin de la part du Barça?
Et dernier sujet de l'émission, on reviendra en France pour parler d'un joueur qui affole l'Olympique Lyonnais, qui espère le signer dès cet hiver, Sardar Azmoun, l'international iranien du Zénith Saint-Pétersbourg. Qui est-il? Que se passe-t-il autour de lui alors que la concurrence commence à s'accumuler pour l'OL? On accueillera Raphaël Bros, spécialiste du football de l'Est, pour nous parler de l'iranien du Zénith.
L'excellent, le sémillant Raphaël Bros. J'ai presque hâte de laisser ma place pour vous dire, pour profiter de lui.
Comme d'habitude, vous le savez, Mercredi Mercato est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Téléchargez, notez-nous, commentez, demandez-nous des infos sur le Mercato de Dijon. Glenn Cellier, ce sera un plaisir de vous répondre dans les semaines qui viennent. Donc voilà, pour
agrandir. Les mois qui viennent même, tu peux dire.
Évidemment. Et si vous préférez la vidéo et voir nos bobines au lendemain des fêtes, il suffit d'aller sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission. Glenn, je crois qu'on est paré au décollage, direction Madrid.
Exactement, pour évidemment parler de cette information des quotidiens espagnols Marca ce matin, avec Haaland et donc Mbappé. Le Real voudrait les signer l'été prochain. On rappelle pourquoi. Évidemment, Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin. Et pour Haaland, qui appartient toujours à Dortmund, il y a une clause quand il a signé avec Dortmund, avec le Borussia. Le Norvégien a mis une clause qui pourrait, en gros, il pourrait partir dès cet été pour 75 millions d'euros. Quand on connaît le potentiel du gamin, j'allais dire, oui. 75 millions d'euros, c'est rien pour lui.
Ce qui est intéressant dans la une de Marca, donc on a disséqué évidemment l'article principal, todo el dinero para la delantera, c'est-à-dire l'argent qu'il faut, tout l'argent qu'il faut pour l'attaque. C'est ce qui se dit dans les réunions actuellement du Real Madrid. Et il y a un optimisme modéré, selon les sous-titres de Marca, sur la possibilité d'avoir ces deux joueurs-là. Alors, pour Kylian Mbappé, on ne va pas dire que c'est déjà fait, mais en tout cas, c'est très bien avancé. Ouais. Pour Erling Haaland, on rappellera que Haaland semble préférer quand même la Liga à la Première Ligue comme destination plausible. On sait que le FC Barcelone, on y reviendra juste après, est un candidat, le Real Madrid aussi. On va se demander tout simplement, Glenn, est-ce que pour le Real Madrid, imaginez un été 2022 avec les arrivées d'Erling Haaland et Kylian Mbappé, ce ne serait pas une fausse bonne idée selon toi?
Alors, ça dépend pourquoi. Déjà, il faut dire que pour moi, c'est clairement possible. Tout simplement parce que le Real a les comptes pour. Contrairement à son rival barcelonais, le Real peut se permettre ce genre de folie, peut offrir des contrats mirobolant à Mbappé et à Haaland, surtout parce qu'en plus Mbappé serait libre quand il arrivera. Voilà, donc ça c'est clair. Et puis le Real, depuis ces dernières années, le Real a été assez calme. On le sait, l'été dernier, ils ont signé finalement Camavinga pour 31 millions. Alaba est arrivé libre. Et à côté de ça, ils ont vendu Raphaël Varane, Odegaard. Donc l'été d'avant, ils signent personne. Voilà, on le sait. En gros, depuis 2019, avec cet été monstrueux où ils avaient signé Hazard, Jovic, Militao et Mendy notamment, depuis ils sont assez calmes. Donc ils ont reconstitué, on va dire, une sorte de trésor de guerre, ce que le Real a l'habitude de faire finalement depuis quelques années, pour s'activer et pour attendre cet été. Donc oui, ils ont l'occasion de le faire. Est-ce que c'est une bonne idée? Pour moi, c'est peut-être les deux meilleurs joueurs du monde des 10 prochaines années. Donc, j'ai du mal à dire que c'est une mauvaise idée à partir du moment où vous pouvez vous offrir, notamment quand vous appelez le Real Madrid, où vous avez eu des époques avec des Galactiques, où vous aimez des stars comme de la dimension de Mbappé et de Haaland. J'ai du mal à dire que c'est une mauvaise idée, en tout cas, parce que tu peux t'offrir les deux stars des 10 prochaines années. Après, sportivement, et ça, là-dessus, on va en parler, Cyril, je pense, c'est là où ça me pose un petit souci. Je vois pas comment en fait on fait jouer tout ça, les deux ensemble.
Tu as tout résumé dans les 10 prochaines années. Sur le long terme, c'est impossible de dire que le Real n'a pas raison de tenter ce coup-là. Il y a la possibilité sur ce marché 2022 d'été. Donc le Real doit y aller absolument. Sur le court et même sur le moyen terme, ça pose pas mal de questions. Alors déjà, sur le long terme, rappelons quand même que Haaland et Mbappé, ce sont deux joueurs qui facturent, allez, à grand minima, 30 buts par saison. Quand vous regardez l'état actuel de certains grands clubs européens, je pense notamment à la Juventus Turin, qui est en déficit total de buts par l'absence de joueurs de ce calibre-là, c'est-à-dire ces attaquants qui peuvent planter des buts tout au long de la saison, évidemment que c'est une excellente idée. Sur le moyen terme, et même sur le court terme, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde postulant au 11 de départ au Real Madrid. Donc là, on va rentrer dans l'aspect sportif des choses. Glenn, on a fait une liste de tous les joueurs qui pourraient être présents, tous les joueurs offensifs qui pourraient être présents la saison prochaine au Real Madrid. Si d'aventure Mbappé et Haaland venaient à signer, donc il y aurait ce fameux duo. Il y aurait évidemment Karim Benzema, qui est potentiellement un des meilleurs attaquants au monde actuellement. Vinicius, qui là, pour le coup, est un des meilleurs joueurs du monde actuellement, ou en tout cas sur son début de saison. Le jeune Rodrigo, il y a encore Eden Hazard, donc peut-être qu'il faudra se débarrasser de certains. Asensio, Jovic, Mariano, donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Et surtout, si on prend les quatre premiers, Mbappé, Haaland, Benzema, Vinicius, les mettre sur un terrain ensemble et trouver une harmonie collective. On souhaite beaucoup de courage à Carlo Ancelotti, si c'est lui qui hérite de cette situation-là, parce que au-delà de la possibilité de mettre les quatre ensemble, ce qui est faisable, on peut imaginer un Mbappé à gauche et un Vinicius à droite, un Benzema qui tourne autour de Haaland, donc dit comme ça, c'est très alléchant. Sauf que c'est pas possible de mettre cette attaque-là avec un milieu de terrain Kroos, Modric ou Kroos, Casemiro, parce qu'il faudra des compensations dans tous les sens. Et on sait qu'au Real Madrid, le milieu est davantage un milieu qui aime avoir le ballon plutôt que de courir derrière pour le récupérer.
Ouais, mais t'as tout résumé. Moi, j'y crois pas trop. Je vois pas. Sportivement, je vois pas comment il ferait, en fait. Ça me paraît compliqué. Et ce que tu viens de dire, en plus, tu l'as dit, tu as dit Vinicius à droite. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait changer de côté Vinicius. Or, il est hyper à l'aise à gauche. C'est quand même un peu frustrant d'être obligé de se passer de lui à gauche. Moi, je vois pas comment tu peux faire jouer ces quatre-là ensemble. Or, si tu signes, évidemment, Mbappé et Haaland, étant donné le niveau, ce que tu viens de dire, Vinicius, qui est peut-être l'un des tout meilleurs joueurs au monde sur ce début de saison, qui est juste monstrueux en ce moment. Benzema, voilà, on ne va pas en reparler. Tu ne peux pas en mettre un sur le banc. On le voit, et en plus, ça va poser un problème d'équilibre dans l'équipe. On le voit avec le PSG cette année. Le PSG, sur le papier, c'est hyper sexy. Messi, Neymar, Di Maria, Mbappé. Sauf qu'au final, trouver une alchimie avec tous ces gens-là quand ils sont sur la pelouse, c'est quand même dur, notamment en Ligue des Champions. Or, on le sait, le Real, ce qu'il rêve, c'est d'ajouter encore des Ligues des Champions. Évidemment, c'est la compétition qui fait rêver tous les socios, tous les fans du Real. Donc, moi, c'est plus ça, parce que les autres noms, tu as cité tous les autres noms, évidemment, il y a aussi d'autres noms ronflants, j'allais dire, derrière. Mais pour moi, il y en a qui vont évidemment partir. On le sait, alors, on ne l'a pas dit d'ailleurs, et ce qui rend aussi ces transferts possibles, c'est le départ notamment de Gareth Bale, qui arrive en fin de contrat l'année prochaine, l'été prochain. Et voilà, ça va libérer une masse salariale folle. Ça aussi, ça va évidemment soulager et permettre au Real de s'activer. Et voilà, il va y avoir des départs. Mais rien que les quatre noms qu'on vous a cité tout à l'heure pour l'équipe de départ, ça me paraît impossible de les mettre ensemble, ou en tout cas un risque énorme sur le papier pour un coach, pour Carlo Ancelotti.
Ouais. Tu as parlé du terrain, il peut aussi y avoir potentiellement des petits problèmes dans le vestiaire. Alors, on sait qu'au Real, normalement, l'institution est plus forte que tout, entre guillemets.
Et Ancelotti arrive à très bien gérer ça aussi, en général.
Tout à fait. Mais imaginez un Karim Benzema qui sort des deux plus belles saisons de sa carrière, qui domine actuellement le football, on a envie de dire. Le
football espagnol, au moins.
On l'imagine parfaitement avec Kylian Mbappé et on viendrait lui mettre la lampe dans les pieds alors qu'il a encore prolongé récemment, qu'a priori, son envie, c'est plutôt de terminer sa carrière au Real Madrid, malgré le rêve de certains supporters lyonnais de le revoir. Imaginez un Vinicius qui a un salaire très, très bas, qui renégocie actuellement son salaire et qui finalement n'a plus place garantie alors que c'est l'année de son éclosion au plus haut niveau. Et puis même quand on parle de Mbappé Haaland, peut-être que l'arrivée d'Haaland peut froisser Mbappé ou inversement, ces deux gars-là, s'ils viennent au Real Madrid, c'est pour incarner le projet Bernabéu 2022, c'est pour incarner le retour dans la lumière du Real Madrid. Donc toutes ces questions-là posent question, j'ai envie de dire, et surtout, on a l'impression que Florentino Pérez, il retombe dans les mêmes pièges que ces galactiques des années 2000, c'est-à-dire compiler les stars offensives si possible et faire un petit peu fi de la logique sportive parce que tout pour l'attaque au Real Madrid, pourquoi pas, mais on a quand même envie de se dire que des investissements intelligents et peut-être des gros chèques pour signer un gros défenseur, voire un gros milieu de terrain, pas inintéressant pour le Real Madrid à moyen terme.
Surtout que certains commencent à se faire un peu vieux au milieu, on le sait au Real, et que ce serait en effet peut-être pas mal de trouver des profils pour les remplacer, parce que c'est bien beau, en effet, ce que tu dis, d'avoir une attaque flamboyante, mais si derrière, il n'y a personne pour les alimenter, ou si ça craque de toutes parts derrière, ça va pas très loin en général, malheureusement.
Voilà, Glenn, je crois qu'on a fait le tour du Real. Alors non, est-ce que c'est une erreur pour répondre à la question de base sur le long terme, impossible de dire ça. Sur le court terme, on souhaite bien du courage à l'entraîneur qui va hériter de cette situation-là. Un entraîneur qui a hérité d'un nouveau joueur, c'est Xavi, ces derniers jours. Glenn, on passe au FC Barcelone. Xavi, donc, qui a accueilli, c'est officiel depuis mardi, Ferran Torres au FC Barcelone, l'ailier droit de Manchester City, qui débarque contre 55 millions d'euros. Une question toute simple, peut-être Glenn, avant de se poser la question, peut-être un petit rappel sur le pourquoi du comment de ce transfert et comment le FC Barcelone a pu mettre autant d'argent sur un joueur, alors que ça fait depuis des semaines et des semaines qu'on répète d'un mercredi mercato que le Barça a la corde au cou. On va rappeler une chose, c'est que le Barça a refinancer sa dette via un nouveau prêt il y a quelques mois avec Goldman Sachs. Donc, disons qu'en termes de dépenses et de possibilité de mettre des millions sur un joueur, le Barça n'a plus ce problème-là. Ce sera un problème à long terme avec une dette qui s'est encore accrue avec ce nouveau prêt. Mais le Barça a des liquidités qui peuvent lui permettre d'accueillir des joueurs. En revanche, ce qui pose problème, c'est le fair play financier de la Liga. Et tu vas nous expliquer ça. Finalement, pour l'instant, que ce soit pour Daniel Alves, la première recrue des Blaugrana, et pour Ferran Torres, on n'est pas encore tout à fait certain qu'il soit autorisé à jouer avec le Barça lors de la seconde partie de saison.
C'est ça, tu l'as très bien dit. En fait, si le Barça peut acheter un joueur comme Ferran Torres à cette hauteur de transfert, parce que 55 millions, c'est beaucoup pour un club endetté comme le Barça, c'est parce que, tu viens très bien de le résumer, ils ont fait un prêt de à peu près 600 millions d'euros à la Goldman Sachs en fin d'été. Donc ce qui leur permet d'avoir des liquidités. Mais ce que tu dis, le vrai souci, c'est tout simplement le fair play financier de la Liga qui va, pour permettre d'incorporer des joueurs comme Ferran Torres, il va falloir encore libérer de la masse salariale. Alors, on le sait, le Barça a déjà gagné beaucoup en masse salariale, notamment avec le départ de Messi. On se rappelle que l'année dernière, Messi, c'est quand même 76 millions d'euros dans la masse salariale du Barça, selon Forbes. C'est énorme. Il y a aussi le départ de Griezmann. Il y a aussi la retraite, malheureusement, de Sergio Aguero, qui ont permis de soulager, on va dire, un peu les finances barcelonaises. Ouais. Et d'alléger cette masse salariale qui était colossale, qui plombait depuis des années. Ici, le Barça est dans le rouge, c'était notamment à cause de cette masse salariale de dingue. Donc, pour le moment, Il y a un gros doute sur Ferran Torres pour le moment, et même Daniel Alves. On ne sait pas si le Barça va pouvoir l'incorporer. Il y a encore récemment un dirigeant du Barça qui a redit que c'était pas, à l'heure actuelle, ce n'était pas possible. Et c'était quelques jours avant justement l'annonce de cette officialisation de Ferran Torres. Alors, il y a des possibilités, Cyril. Tout n'est pas encore fermé, c'est encore possible. S'ils l'ont fait, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour attendre dans 6 mois. Les différentes possibilités, on les connaît. Il y a notamment, évidemment, soulager encore cette masse salariale en vendant des joueurs, c'est-à-dire notamment les plus gros salaires. Et on pense bien sûr à Philippe Coutinho, voilà, qui a vendu, qui pèse quand même presque, je crois que c'est 16 millions d'euros de salaire. C'est énorme, surtout pour un joueur qui n'est plus incontournable au Barça. L'autre, évidemment, on en parle régulièrement en France, c'est Samuel Umtiti, qui est à peu près à 3,9 millions d'euros de salaire. Voilà, il faut vendre. Il y en a d'autres qui sont évoqués. Si le Barça arrive à libérer ses joueurs, ils vont pouvoir inscrire Ferran Torres sur leur liste des joueurs disponibles pour la fin de saison. C'est le but, évidemment, mais il faut encore faire des efforts au Barça pour rentrer dans les clous de ce fair play financier espagnol qui, justement, c'est ce que tu dis, prend un peu à la gorge le Barça malgré le prêt et les prêts que font le Barça pour essayer de continuer de comment dire, sa progression ou essayer de retrouver un peu la stature qui était la sienne il y a encore quelques mois ou quelques années plutôt.
Alors, on va revenir au sujet Ferran Torres en lui-même, ouais. Glenn. 55 millions pour c'est donc beaucoup. Un remplaçant de Manchester City. Alors, Ferran Torres, on va vous rappeler son parcours, passé par Valence. Il a brillé un petit peu à Valence avant de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. À City, il a été utilisé comme ailier droit, comme numéro 9, comme ailier gauche. Voilà, une grosse polyvalence. Et surtout, un âge qui est très intéressant, 21 ans. Quand on voit actuellement la jeunesse barcelonaise qui pointe le bout de son nez, on se dit que ça complète parfaitement l'effectif. Moi, c'est justement sur ces 55 millions d'euros que je m'interroge. On sait que le Barça, même s'il y a eu des liquidités fraîches, ne pourra pas se permettre de mettre 80, 90 millions d'euros, 100 millions d'euros sur des joueurs ou sur un joueur en tant que tel, et devra donc aller chercher des bons coups et des coups à coût raisonnable, justement. Moi, je me pose la question de l'intérêt de mettre autant d'argent sur un Ferran Torres qui, certes, augmente la compétitivité de l'effectif du Barça, mais vient surtout le compléter. Ferran Torres, si d'aventure Ousmane Dembélé venait à prolonger, si d'aventure Ansu Fati revient enfin en forme à gauche, et si le Barça signe un numéro 9 l'été prochain, comme c'est a priori l'histoire la plus probable, je trouve ça quand même très cher payé de la part du FC Barcelone. Alors certes, c'est un joueur qui lit bien les espaces, oui, il a encore une marge de progression, mais sa polyvalence est aussi un petit peu un défaut à mes yeux. Moi, je n'ai jamais trop su quel poste lui allait le mieux. Et je ne vois pas… Enfin, voilà, c'est encore une fois sur la somme. Voilà, quand on est un club en difficulté financière comme le FC Barcelone, mettre autant d'argent sur un joueur amené à compléter l'effectif plus qu'à l'améliorer sensiblement, plus qu'à améliorer sensiblement le 11 de départ, j'ai un peu de mal à comprendre.
Alors, sur le fond, je suis assez d'accord avec toi, même totalement d'accord. 55 millions, j'ai trouvé ça très cher. Je pensais qu'ils allaient signer pour moi. Mais le souci, c'est que pour moi, évidemment, ce ne sera pas la pierre angulaire du projet de Xavi, je ne pense pas. Mais est-ce que le Barça peut se payer, n'a pas les moyens à l'heure actuelle de se payer un joueur qui peut être la pierre angulaire de son projet comme Lionel Messi? Et surtout, l'autre point où pour moi, c'est peut-être pas mal de choper un Ferran Torres qui, justement, c'est ce que tu dis, s'adapte très bien et va s'adapter très bien pour moi au style de jeu voulu par Xavi. C'est que pour moi, la pierre angulaire, ils l'ont peut-être déjà, c'est-à-dire avec Pedri, voit ce que fait Gavi, on voit même Ansu Fati, évidemment. Ils ont des joueurs, on sait que c'est dans une logique de reconstruction en ce moment, le Barça, et Ferran Torres, dans cette logique de reconstruction, est peut-être une pierre importante, alors peut-être pas déterminante, ça fait très cher, je suis totalement d'accord, mais au final, je trouve que c'est pas mal, c'est pas bête, parce que tu peux avoir un joueur qui peut jouer sur plusieurs... justement à droite, à gauche, on sait pas trop où il joue, mais en même temps il rend beaucoup de services. On l'a vu avec l'Espagne cet été à l'Euro où il est l'une des des clés du bon parcours de l'Espagne qui finit en demi-finale de l'Euro malgré sa jeunesse. Bon voilà, je trouve que c'est très cher, mais je me dis c'est pas si mal que ça. C'est il y a voilà, j'attends de voir un peu ce que ça peut donner. J'attends, mais pas sur le court terme. Je me dis, il pense vraiment sur le long terme, là, pour moi, Xavi, en prenant Ferran Torres. C'est-à-dire pas forcément sur cette saison, parce qu'en plus, on le sait, il revient de blessure. Il n'a pas joué depuis 2 mois. Je ne suis pas sûr que ce soit lui qui va permettre au Barça de relever complètement la tête sur les 6 prochains mois. J'ai un doute. Mais voilà, je comprends la logique. Et en général, d'ailleurs, je trouve, ça c'est différent, je trouve que ce que fait Juan Laporta a une certaine est assez malin, même sur le long terme.
On va parler d'un nom qui a surgi ces dernières heures, notamment la RAC, qui parlait du cas César Azpilicueta en fin de contrat avec Chelsea et qui aurait déjà un accord avec le FC Barcelone. Là, moi, on parlait de mercato malin et de mettre autant d'argent sur Ferran Torres. Moi, je pense que le Barça doit plutôt se tourner vers des profils comme ça. César Azpilicueta, évidemment que c'est une bonne idée. Ouais. Polyvalence de folie, leadership, expérience. Quand on sait que le Barça doit reconstruire quand même aussi sa défense centrale et potentiellement trouver un nouveau numéro 9, j'aurais plutôt gardé ces 55 millions d'euros-là pour aller faire un gros coup l'été prochain plutôt que de prendre un joueur de complément. En revanche, la direction prise et les bonnes affaires, si ça se fait pour César Azpilicueta, évidemment que c'est une excellente idée. Le Barça devra plutôt se tourner vers ce genre de profil-là, à mes yeux, pour encadrer la jeunesse triomphante qui sort de sa Masia. Wait and see, on verra pour Ferran Torres. Si ça se trouve, ce sera un crack et on aura eu complètement tort dans ce mercredi mercato. Mais voilà, la somme nous a en tout cas interrogé, Glenn. Ouais. On va tranquillement terminer cette émission, si tu le veux bien, en accueillant un invité de marque, Raphaël Brosse, pour nous parler d'un cas spécifique, le cas de Sardar Azmoun. Nous voilà donc en Russie, dans Mercredi Mercato, exotisme total en ce mois de décembre. On accueille Raphaël Brosse, donc spécialiste du football de l'Est, contributeur que vous connaissez pour Eurosport, qui a notamment déjà intervenu dans Tour d'Europe. Salut Raphaël, comment ça va déjà ?
Salut Cyril, écoute, ça va plutôt très bien, j'espère que toi aussi. Plaisir de venir vous rendre visite dans Mercredi Mercato.
Ça va ici aussi très bien. On vient de voir pour parler d'un cas qui fait pas mal parler ces derniers jours sur le marché des transferts. C'est le cas Sardar Azmoun, l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg. Ces dernières heures, il y a l'Olympique Lyonnais qui suit de toute façon le cas Azmoun depuis l'été dernier. Juninho était un fan du joueur. Peter Boss l'aime beaucoup. On sait que Lyon va perdre Slimani et Kadewere pour la CAN. On sait que Lyon cherche de toute façon un attaquant de pointe. Aux nouvelles, Newcastle s'est également invité dans la danse. Et l'Atalanta, ce mercredi, qui est également un club intéressé par l'international iranien. Alors, une question toute simple pour commencer. Raphaël, c'est qui Sardar Azmoun ? Quel type de joueur c'est ? Est-ce que c'est un buteur pur ou est-ce que c'est un joueur qui sait faire beaucoup, beaucoup d'autres choses ?
Alors, pour aller rapidement sur sa fiche biographique, Sardar Azmoun, c'est un attaquant iranien, il a 26 ans. C'est un joueur que moi, je juge très complet. Enfin, je veux dire, il est ambidextre, il est relativement grand, 1m86, mais c'est un joueur aussi extrêmement rapide, enfin très rapide en tout cas. Donc, il a une palette assez large, il est très technique, très bon dans les petits espaces, c'est un bon finisseur. En fait, j'aurais du mal à donner un défaut, là tout de suite, en termes techniques. Il n'en a pas, ou en tout cas, je le connais pas suffisamment pour l'identifier, ou alors il doit être tout petit. Ouais. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est autant sollicité ? C'est en raison de sa situation contractuelle, puisqu'il sera libre en juin prochain, donc en 2022. Ouais. Ce qui fait que c'est délicat de le conserver pour le Zénith. Oui, en tout cas, le Zénith pourrait lâcher pour une somme moins élevée. Le deuxième élément, c'est justement ça, c'est le montant de transfert qui pourrait être demandé. On parle d'une somme avoisinant les 3 millions d'euros, donc c'est franchement cadeau pour un joueur comme ça. Donc son âge, c'est un autre élément, j'ai dit, il a 26 ans, donc il a encore de très belles années devant lui. C'est pas non plus un jeune, mais en même temps, il a encore un sacré potentiel à exploiter. Et puis, c'est un joueur qu'on a l'habitude de voir en Ligue des Champions, alors surtout en phase de groupe, puisque le Zénith va rarement au-delà. Mais c'est typiquement lors d'un tour préliminaire de Ligue des Champions qui s'était fait remarquer par Peter Bosch, par exemple, à l'époque où celui-ci entraînait l'Ajax.
Au niveau du profil de joueur, donc attaquant complet, est-ce qu'il ressemble à un attaquant récent ? Il te fait penser à quelqu'un ou pas spécialement ?
Alors, au pays, on lui donne le surnom de Messi iranien. Bon, pour moi, ça va pas du tout. C'est très peu pertinent, puisque bon, déjà, on peut difficilement comparer quelqu'un à Messi. Et d'autre part, physiquement, techniquement, ça colle pas trop. En revanche, une comparaison, elle aussi, mise en avant par les médias, qui me semble plus judicieuse, c'est celle vis-à-vis de Zlatan Ibrahimovic. Alors, pas aussi grand peut-être, pas aussi physique, mais c'est un peu le même registre d'attaquant qui peut s'imposer dans les duels, mais qui est aussi très habile balle au pied, qui peut, voilà, qui est très présent dans la surface, qui peut faire des différences vraiment sur un geste technique. Il n'a pas du tout le même caractère en revanche, évidemment, en même temps, personne n'a le caractère de Zlatan. Mais voilà, aujourd'hui, spontanément, je peux te sortir ce nom-là, mais sinon, je ne vois pas trop quel autre attaquant ressemblerait à celui-ci.
Alors, pourquoi il affole autant le mercato? Tu en as parlé. Il y a évidemment sa situation contractuelle. Il y a ses buts. On est 104 matchs, je crois, avec le Zénith et une soixantaine de buts marqués. Donc, c'est vraiment un buteur racé. Qu'est-ce qui se dit ces dernières heures du côté de la presse russe? Est-ce que déjà, on parle beaucoup du cas Azmoun en Russie ou est-ce que pas tellement? Et est-ce qu'il y a... Voilà, en France, on sait que l'équipe avait affirmé il y a quelques jours que l'OL et Azmoun s'étaient mis d'accord sur les détails d'un contrat et qu'il restait désormais à l'OL de convaincre le Zénith Saint-Pétersbourg. Est-ce que la tendance est similaire en Russie? Est-ce qu'on voit encore Lyon comme le grand favori pour Azmoun?
Alors, le cas Azmoun fait parler, oui, au niveau de la presse russe. Et le nom de Lyon revient aussi régulièrement. C'est un club qui est intéressé de longue date et là qui est revenu à la charge, effectivement. En revanche, bon, comme tu l'as dit en tout début d'émission, il y a aussi d'autres prétendants qui commencent à frapper à la porte. Mais la situation, en fait, elle n'a pas tant évolué que ça par rapport à l'été dernier. C'est-à-dire que ce n'est pas franchement une question d'argent pour le Zénith. Le Zénith, ouais, c'est un club qui est adossé au groupe Gazprom. Donc, financièrement, ils ne sont pas dans un besoin impérieux de vendre des actifs. Donc, voilà. Mais c'est une question de compétitivité, d'être toujours présent à la reprise pour aller chercher un nouveau titre de champion de Russie ou pour être performant aussi en Ligue Europa. Donc, ils ne se voient pas lâcher Azmoun comme ça sans avoir un remplaçant derrière. Donc là, c'est quelque chose qui a été avancé notamment par Sport 24, qui est un média référence en Russie. Et bonne nouvelle peut-être pour l'OL, ça je l'ai aussi lu il y a peu de temps, notamment chez Sport Express, le Zénith s'apprête à recruter Ivan Sergeyev, qui est un buteur du Krylia Sovetov Samara. Visiblement, la signature est vraiment imminente, il aurait passé la visite médicale, ça va se faire. Donc peut-être que ça va libérer une place et qu'Azmoun va pouvoir partir. Ouais. Sauf qu'Azmoun n'est pas le seul à vouloir partir du côté du Zénith. Il y a aussi l'autre attaquant star, c'est-à-dire Artyom Dzyuba, ouais, qui est lui aussi en fin de contrat en juin 2022, qui est lui aussi sollicité, bon, pour le coup surtout en Russie, mais qui a 33 ans. Donc pour le coup, les dirigeants vont sans doute lui accorder d'abord le bon départ à lui et éventuellement, s'il trouve un autre remplaçant, peut-être pour Azmoun.
Ouais, donc difficile d'imaginer le Zénith changer complètement sa paire d'attaques pendant un mercato d'hiver.
Bah, c'est pas impossible non plus, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs sur d'autres joueurs offensifs. Le Zénith, ça va sans doute bouger d'ici là. On parle aussi d'Arthur Cabral, par exemple, attaquant brésilien de Bâle. Donc, pour résumer, en fait, je vois très mal Azmoun débarquer à Lyon le 1er janvier ou le 2 janvier. Voilà, ça ne faut pas trop se faire d'illusions. Mais d'ici au 31, c'est une opération qui, à mon sens, peut toujours se faire, en tout cas s'il y a du mouvement.
Mais voilà. Vous savez un petit peu plus qui est Sardar Azmoun et pourquoi il affole tous ces clubs européens en premier lieu de l'Olympique lyonnais. C'est la fin de ce mercredi mercato entre le jour de Noël et le nouvel an. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Glenn. N'oubliez pas que mercredi mercato est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Si vous voulez nous voir en vidéo, il suffit d'aller sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de l'émission. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Le mercato sera officiellement lancé. Martin sera officiellement de retour. Donc, gros programme en perspective. Merci beaucoup, messieurs, et à la semaine prochaine.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.